Ce matin, je vous invite à aller dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er et au verset 43. Donc, dans ce récit, il y a eu une rencontre avec Jésus et les premiers disciples. Et puis là, le lendemain de cette rencontre, eh bien, il nous est dit que Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Et puis, un peu plus loin, il nous est dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Wow! Quelle expérience, là! Quelle rencontre! J'aimerais ce matin vous parler d'un homme qui peut paraître tout insignifiant, dont on ne prêche pas souvent. Il passerait presque pour un inconnu. Et pourtant, la Bible nous en parle en quelques lignes. Cet homme, c'est Nathanaël. D'ailleurs, il n'y a que l'évangile de Jean qui nous en parle. Et il apparaît deux fois dans cet évangile, et au chapitre 21 et au verset 2. Où là, il nous est dit, Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Ça s'arrête là. Est-ce que de ces quelques versets, cela peut nous parler? Et moi, j'ai intitulé ce message ce matin « Une rencontre personnelle avec le Christ ». C'est avant. Voilà. Une rencontre personnelle avec le Christ. Est-ce que vous savez ce que veut dire le nom Nathanaël? Alors, je ne fais pas preuve d'érudition ce matin, hein. Bien entendu. Cela signifie « Dieu a donné ». Et depuis le 9e siècle, on l'identifie parfois à Barthélemy, l'un des 12, mais on n'en est pas sûr, il pourrait s'agir d'une erreur. Mais mettez ça dans le coin de votre tête. Et là, dans cet évangile de Jean, eh bien, il nous est dit qu'il était originaire de Cana en Galilée, on l'a lu. Hein? Mais quand on revient, j'allais dire, au chapitre 1er, où il nous est parlé de cette rencontre, eh bien, il nous est dit que c'était un vrai Israélite. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de dire c'est un vrai Israélite? Alors là, on voit où il était né, voilà la carte. Alors bon, c'est pas très, très explicite, mais c'est pour vous situer un peu. Vous pourrez regarder dans votre Bible, vous avez des cartes, et vous verrez où se trouve Cana, hein, Nazareth et tout cela. Où ça se situe. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, un vrai Israélite? Pardon? Tout un ensemble de choses, hein. Être un vrai Israélite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Moi, par exemple, ben, si je vais vous dire, voilà un vrai chrétien. Est-ce que ça vous parle plus? Voilà, hein, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Hein, un vrai Israélite, c'est-à-dire qui pratiquait sa religion. Ça veut dire un descendant d'Abraham, c'est-à-dire qu'il a des origines profondes, ancrées, quelque chose qui est enraciné en lui, quelque chose de fort. Il a une identité. Hein, et c'est important, quoi. Hein, et cette identité, elle est par le sang. Hein, et c'est aussi un homme qui est, j'allais dire, fidélité à la loi de Moïse. Hein, c'est-à-dire que, hein, on va voir après comment on découle les choses, mais un vrai Israélite. Et puis, qu'est-ce qu'il avait comme particularité? C'est qu'il étudiait les Écritures. Alors, vous allez me dire, c'est pas marqué dans le texte. C'est pas marqué dans le texte. Oui. Et pourtant, 1 Jean 48. Eh bien, il y a une expression qui nous est dite. Il était sous le figuier. Est-ce que le figuier, ça vous parle? Oui, entre autres. Et puis, qu'est-ce qui se passait sous les figuiers à l'époque? Ben, c'est là qu'on étudiait la loi. C'est là aussi étaient faits les jugements. On rendrait des jugements quand il y avait des litiges avec les uns ou avec les autres. Eh bien, c'était sous le figuier. Il y avait le représentant du village. Et puis là, ben, les choses étaient jugées. Et donc là, être sous le figuier, c'est une expression rabbinique qui se réfère à l'arbre dont il était question dans le second récit de la création, dans Genèse chapitre 2, verset 4. À savoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il pouvait juger ce qui était bien et juger ce qui était mal. Hein? C'est pas l'arbre, hein, qui faisait ça, mais c'était des hommes qui se réunissaient dessous, hein, qui étaient des érudits, qui étaient des gens qui connaissaient les Écritures. Et on voit que cet homme, il n'a aucune connaissance de Jésus. Et il apprend de la bouche de Philippe que Jésus est le Messie. Que ça veut dire ça? Hein, pour quelqu'un qui est profane, hein, dites à quelqu'un dans la rue que Jésus est le Messie. Les gens, ils vont pas trop, ils vont vous regarder bizarre. Et c'est là que Philippe lui dit, celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes. Nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Alors il y a des précisions, hein? Tac, tac, tac. Fils de, hein? De Joseph. Et on précise le lieu pour que ça percute un peu les uns et les autres, parce qu'ils connaissent un peu toute la région. Et c'est là que Nathanaël dit, peut-il sortir quelque chose de bon? Devant, j'allais dire, une telle réponse, qu'est-ce que nous aurions répondu, nous? Ben Philippe, il est comme nous, hein. Hein, il n'a peut-être pas la science infuse, c'est pas un érudit des Écritures. Hein. Il dit, si tu veux que je t'explique quelque chose, viens et vois. Des fois, on se complique des fois à donner des tas d'explications pour convaincre les gens. Ben, viens voir sur pièce, en fin de compte. Hein. Viens te rendre compte. Viens et vois. Ah ouais. Ah, c'est cela. Voilà. Et là, je reviens encore sur cette chose où Nathaël, hein, qui voit venir à lui Jésus, et Jésus l'interpelle et dit, voici un Israélite. Hein, il n'y a pas de fraude en lui. Alors, bien entendu, il y a ce dialogue. Hein, d'où me connais-tu? Hein, qui es-tu? D'où me connais-tu? Dialogue un peu étrange. Avant que Philippe t'appelle, tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit, Rabbi, c'est toi le fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Et Jésus reprend, je te dis que je t'ai vu sous le figuier, c'est pour cela que tu crois? Tu verras de plus grandes choses. Alors que nous apprend ce texte, bien entendu, viens et vois. L'épisode de Nathanaël nous inspire une réflexion, une relation avec Jésus. Et je crois que nous ne devons pas nous contenter que de paroles. Philippe, dans sa réponse, adresse une invitation significative à Nathanaël. Et je crois que parfois, nous nous perdons dans des arguments pour convaincre nos interlocuteurs ou ceux à qui nous voulons rendre témoignage. Et souvent, ils ont des tas de réponses et on finit par ne plus savoir. Bien, tu sais, moi, je suis pas calé, hein, je n'ai pas fait des hautes études, mais une chose est certaine. Viens et vois, et tu vas te rendre compte toi-même. Oui, notre connaissance de Jésus a surtout besoin d'une expérience vivante. Et nous sommes, et je l'espère, une expérience vivante du Christ dans notre témoignage. C'est vrai, le témoignage d'autrui est important, car généralement, toute notre vie chrétienne commence par une annonce qui parvient jusqu'à nous, et à travers de plusieurs témoins. Et lorsque, hein, rappelez-vous, lorsque vous êtes venu à Jésus-Christ, à part quelques rares exceptions, hein, des gens qui, d'un seul coup, ouvrent la Bible et se convertissent, ça existe. Hein. Mais en général, c'est parce que quelqu'un nous a rendu témoignage. Hein. La majeure partie du temps, c'est parce qu'on nous a rendu témoignage que nous sommes venus un jour dans une église, nous sommes venus nous rendre compte sur place, hein, ce que on nous avait témoigné. Et c'est ensuite que les choses évoluent. Et c'est qu'ensuite, personnellement, nous participons à cette relation intime et profonde avec Jésus. C'est de même, la même manière avec les Samaritains. Ils ont entendu le témoignage de leurs concitoyens que Jésus avait rencontré. Rappelez-vous cette femme samaritaine. Hein, elle fait une expérience. Elle aurait dit, c'est le pur hasard que d'un seul coup Jésus se trouve à ce puits et puis cette femme qui vient chercher de l'eau. Mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et donc, d'un seul coup, il y a cette rencontre personnelle avec Jésus. Ça se fait sur le bord de la margelle du puits. Donne-moi cette eau. Non, ceci et cela et l'eau que je vais te donner. Elle est encore... Waouh ! D'un seul coup, Et cette femme, d'un seul coup, elle est transformée. D'un seul coup, elle a comme une révélation. Et elle laisse bientôt son eau, elle va courir dans sa maison. Puis d'un seul coup, tout le village se convertit. Et puis après, vous savez ce qui s'est passé? C'est pas à cause de ce que tu nous as dit. On s'est rendu compte, nous aussi. Ils ont fait leur propre expérience. Hein? Et c'est ça, notre vie chrétienne, elle n'est pas basée sur le témoignage d'un tel ou d'un tel, mais c'est basé sur notre propre expérience, notre propre rencontre personnelle, intime avec Jésus. Et oui. Et c'est pour ça qu'ils ont pu dire, hein, c'est au chapitre 4 de Jean, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. J'espère que c'est notre expérience à chacun ce matin. Et oui. Et donc, en revenant à notre texte, hein, où Jésus dit à Nathanaël, « Voici un véritable fils d'Israël, hein, un homme un homme qui ne sait pas mentir. Jean. Alors, c'est un peu la traduction du mot fraude, hein, qu'on a là. C'est-à-dire, c'est un homme de la vérité. J'allais dire, qui connaît maintenant la vérité, mais en lui-même, il est vrai. Il n'y a pas de détour, il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de dissimulation. C'est un vrai, il est vrai. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Hein. Et on pourrait faire l'éloge de cet homme par le texte du psaume 32, verset 2. « Heureux l'homme dont l'esprit, hein, je ne le dis pas tout le texte, dont l'esprit est sans fraude. » Mais on voit bien que c'est aussi un homme qui est curieux des choses. Et dans son étonnement, lorsque Jésus fait le témoignage de cet homme, tout simplement en quelques mots, Nathanaël est tellement surpris qu'il lui dit « D'où me connais-tu ? » Jésus nous connaît. Jésus sait qui nous sommes. Et on peut lui raconter n'importe quoi. Ça ne changera rien à s'imposer sur nous. Hein? Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Moi, je dis, c'est quelque chose qui me rassure. Parce que je suis convaincu que Dieu nous voit. Dieu nous connaît. Il sait tout de nous. Comment peut-on parfois nous se dissimuler? Comment pouvons-nous nous cacher? C'est vrai que chacun, nous avons notre jardin secret, nous avons des petites choses qui ne sont pas, toujours logiques, pas toujours droites. On ne peut rien cacher devant Dieu. Non. Et là, la Bible nous dit que, ou plutôt elle ne nous dit rien, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé sous le figuier. Et c'était un moment décisif pour Nathanaël. Et quand Jésus lui dit « je t'ai vu sous le figuier », l'air de dire, tu ne peux même pas te cacher sous le figuier, parce que même sous le figuier, je te vois. Et là, Nathanaël se sent touché au plus profond de son être, dans son cœur, par les paroles de Jésus. Et je pense que là, à ce moment-là, il se sent compris de Jésus. Et en même temps, il comprend cela. Parce qu'il se dit, cet homme qui est en face de lui, qui est la personne de Jésus, cet homme, il sait tout de moi, il connaît le chemin de ma vie. Et donc maintenant, je peux lui faire confiance, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, j'ai confiance. Et cet homme a pu réellement s'abandonner à Jésus. Et on peut être étonné de ce que cet homme est en train de vivre. Il vit une parfaite rencontre avec Jésus. Philippe n'est plus l'acteur dans cette chose-là. Il a été simplement l'intermédiaire qui a amené Nathanaël au Seigneur. Philippe n'est plus maître maintenant de la situation. Ça se passe entre Nathanaël et Jésus. Et je me dis, en même temps, en quelques mots, eh bien, nous avons le témoignage et la confession de foi de cet homme. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est extraordinaire cela. Vous ne trouvez pas? D'un seul coup, il réalise. J'allais dire, c'est plus à cause de ce que Jésus, ce que Philippe lui a dit. Hein, nous avons vu le Messie. Mais c'est cette rencontre personnelle. Tu es Rabbi. Tu es le Maître. Tu es le Fils de Dieu. Quelle révélation! Et c'est là on voit où l'Esprit de Dieu agit pour convaincre les hommes et les femmes. Cette rencontre. Vous savez, pourront témoigner des années à certaines personnes, il ne se produira jamais rien. Mais le moment où cette personne-là vient en contact de Jésus, et je dis bien en contact de Jésus. À ce moment-là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Rabbi, maître. C'est-à-dire, je suis en face de quelqu'un qui est supérieur à moi, mais tellement supérieur à moi, tellement grand. La première fois qu'il voit Jésus, vous vous rendez compte? C'est toi le Fils de Dieu. Oh, c'est toi le roi d'Israël. Oh, quelle conversion, mes amis. Oh, quelle confession. Quel témoignage. Cette adhésion à Jésus. Pratiquement instantané. Les paroles de Nathanaël mettent en lumière un double aspect complémentaire de l'identité de Jésus. Il est reconnu aussi bien dans sa relation spéciale avec Dieu le Père, dont il est le Fils unique, que dans celle du peuple d'Israël, dont il est déclaré le roi. Une qualification propre au Messie. Nous ne devons jamais perdre de vue ni l'une ni l'autre de ces deux composantes. Car si nous ne proclamons pas la dimension céleste de Jésus, nous risquons d'en faire un être éthéré et évanescent. Et si au contraire, nous ne reconnaissons que sa situation concrète dans l'histoire, nous finissons par négliger la dimension divine qui le qualifie précisément. Alors c'est vrai que dans tout cela, on a très brièvement tracé le tableau de la situation. Mais tout n'est pas idyllique dans notre affaire. Si Nathanaël présente des qualités, j'allais dire, merveilleuses, qu'on voudrait sans doute avoir comme lui, que nous avons, et je le souhaite, il était quand même prisonnier de certaines choses. Et je pourrais dire, c'est peut-être l'autre côté de la médaille, hein, parce que lorsque Nathanaël a cette conversation avec Philippe, en lui parlant du Messie, est-ce qu'il peut venir de bon? Est-ce qu'il peut venir de bon? Ah. Ben oui. Cet homme, il a quand même des préjugés. Il a des a priori. Il a des a priori. Qui n'a pas de préjugés? Qui n'a pas d'a priori? Nous avons tous des a priori. Et on a des préjugés des fois sur quelqu'un. Quand on dit, ah ben celui-là ou celle-ci se convertiront jamais. N'avons pas à prononcer ces choses-là? Et puis, au fil du temps, peut-être au fil des années, d'un seul coup, il s'est passé quelque chose. Et puis, il s'est passé quelque chose avec Jésus. Oui, on peut avoir des a priori. On peut avoir des pensées qui ne sont pas justes. Et chacun d'entre nous, nous pouvons tomber dans ce piège avec des pensées qui ne sont pas appropriées, j'allais dire, à la personne ou aux événements, aux circonstances. Oui. C'est pour cela que cela nécessite une marche par la foi, afin aussi de se débarrasser de certaines opinions erronées, des jugements qui sont parfois tronqués sur telle ou telle chose, ou sur telle ou telle personne. Et comme je le rappelle et je l'ai souligné tout à l'heure, Jésus fait l'éloge d'un homme pour sa droiture de cœur, pour son intégrité. Oui. Et quand Jésus parle de fraude, eh bien, il inclut la ruse, il inclut les paroles trompeuses, il inclut le mensonge, il inclut l'habileté à transformer un peu la vérité, les tromperies, les astuces, et Jésus en un seul mot, fraude, eh bien, met tout cela en même temps. Et puis, il y a la vérité. Et c'est une vertu, j'allais dire, aussi, qui est principale, que Dieu veut voir en chacun de nous. On ne lira pas les textes dans Proverbes, dans les Psaumes, dans Romains et dans Éphésiens, mais si vous souhaitez, je pourrais vous donner tout cela. D'ailleurs, l'apôtre Jean, dans sa troisième épître, se réjouit de voir ses enfants spirituels, adopter une marche selon la vérité. Qu'on vient de noter aussi que l'apôtre aurait pu préciser que le sujet principal de sa joie était les miracles vécus avec les disciples, le nombre de personnes converties grâce à leurs témoignages, ou la quantité impressionnante de dons spirituels manifestés dans les cultes. Mais tout cela, il n'en est rien. Non. Même si ces réalités étaient certainement abondantes dans la vie des gens à l'époque de Jean, l'accent est mis sur la vérité. Nous sommes dans la vérité. Jésus est la vérité. Et nous vivons de cette vérité. C'est cela qui est important. Et c'est pourquoi il est important et indispensable que le mensonge, la tromperie, soit totalement absent du cœur de chacun de nous. Et quand je reprends, par exemple, où Jésus dit « Je t'ai vu sous le figuier », c'est cela qui est aussi important. Je le rappelle, pour que nous ne l'oublions pas, c'est que Jésus connaît, Jésus voit, Jésus sait. En même temps, Jésus a voulu souligner, dans ce fait de sous le figuier, souligner la piété de Nathanaël. Et si quelqu'un, j'allais dire, souhaite devenir un véritable disciple de Jésus, il lui est indispensable de privilégier sa communion personnelle avec Dieu. C'est important tout cela. Ainsi, on peut noter l'élément suivant, très intéressant, c'est que Jésus a appelé un homme parce qu'il a été appelé, Nathanaël, à partir de ce moment-là. Il a été appelé à un ministère, à un apostolat, à un homme habitué à la méditation, habitué, j'allais dire, aux écrits, habitué à la pratique de la prière. Parce qu'on ne peut pas méditer la parole de Dieu simplement, j'allais dire, en étant rempli que de la connaissance. Il faut qu'à un moment, cette parole, hein, comme il est dit, je mâchais ta parole, ou j'avalais ta parole. C'est-à-dire que je l'assimile, elle pénètre en moi, elle agit premièrement en moi. Je ne dois pas me servir de la parole seulement pour les autres, hein, mais la parole, elle est pour moi. Et Nathanaël se servait de la parole pour s'en nourrir. Et c'est cela qui est important. Et c'est là où il a cette communion avec Dieu. Cette communion intime, personnelle avec Dieu. Oui. C'est vrai. Parfois, au travers de belles prières, les croyants manifestent le désir de faire de grandes choses pour Dieu et de le servir de façon extraordinaire, d'accomplir des actes remarquables. Mais quand on regarde le témoignage de Nathanaël, il ne semble pas qu'il ait fait grand-chose dans ce sens-là. Nathanaël a privilégié sa rencontre et sa vie avec Jésus. Et tout le reste découle de cela. Et si nous n'avons pas cette relation intime avec Jésus, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ça ne produit rien du tout. Oui, mais si la vie de prière et la connaissance biblique ne sont pas forcément des priorités et sont réduites à leur plus simple expression, alors oui, malheureusement, il y a peu de chances que des grandes œuvres puissent glorifier Dieu et que ces choses puissent s'accomplir. Et c'est pourquoi Dieu cherche des hommes, des femmes dont le cœur brûle et qui savent se tenir aux pieds du Seigneur, comme Marie dans la chambre haute. Ensuite, bien entendu, le Saint-Esprit va agir et va permettre l'accomplissement des actions divines de Dieu. Quand on voit Jésus qui a établi les disciples et de voir comment ils ont cheminé, et de voir les miracles et les conversions qui se sont accomplis. Oui. Vous savez que notre foi, frères et sœurs, elle prend racine dans notre cœur. C'est pas dans notre tête. C'est pas de dire, c'est pas la méthode quoi, de dire j'ai la foi, et à la fin, j'ai rien du tout, quoi. Non. La foi, elle s'enracine dans le cœur. Et elle nécessite d'être exprimée. Elle nécessite d'être confessée. Parce que c'est la foi en action qui se voit. Ce n'est pas de ceux qui disent « j'ai la foi ». C'est la foi exprimée en acte. Et elle ne doit pas rester cachée dans notre être intérieur, mais elle doit être, bien entendu, proclamée à travers nos actes. Un chrétien devient puissant, non pas parce qu'il dit « j'ai la foi », mais parce que sa foi l'a amené en action. Et on voit les œuvres de la foi. Oui, c'est cela qui est important. Et notre relation, hein, c'est dans Marc chapitre 11, verset 23, hein, qui fait relation à ces paroles, eh bien, s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit ce qui arrive, il le verra s'accomplir. La Bible affirme que Moïse était puissant en parole et en œuvre. Josué a été encouragé à méditer, c'est-à-dire une action dans le cœur, et à prononcer des actions de la bouche, des conseils divins, disait Josué 1, chapitre 1, verset 8. Le diable, alors, on le voit bien quand on étudie Job en ce moment, et bien que le diable, il n'est pas omniscient. Il n'y a que Dieu qui est omniscient. Il ne connaît pas les pensées de Dieu. Mais il ne connaît pas plus nos pensées non plus. C'est ça qui est aussi important. Il est nécessaire, pour le faire reculer, d'exprimer des paroles de foi. Parce que nous sommes en Jésus. Nous sommes en Christ. Et en cela, nous sommes, j'allais dire, dans cette autorité. Nous avons l'autorité de Jésus, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous pouvons prononcer des paroles, proclamer les paroles de l'Écriture. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que, j'allais dire, ce témoignage de Nathanaël, ce tableau que nous en avons dressé d'une manière succincte, peut-être le manque d'informations que nous avons sur lui, le concernant, demeure pourtant un témoin fidèle à Dieu et aussi en même temps un modèle pour nous. C'est ce qui est important. On ne sait pas s'il a fait des miracles. La Bible n'en parle pas. S'il a vu des choses extraordinaires, il en a certainement vu. Mais la Bible ne nous en parle pas. Ce qui paraît, c'est pas forcément important, cela. Ce qui est important, c'est notre relation avec Dieu. Alors puisse ce témoignage de Nathanaël nous inviter dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, à témoigner du Christ qui, lui, nous appelle à lui consacrer notre vie et notre existence tout entière. Soyez bénis. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour qui nous fait découvrir de tels hommes dont la Bible parle si peu. Et pourtant, qui ont un témoignage extraordinaire. Et je te bénis pour ces perles qu'on découvre dans ta parole. Parce que nous voyons que Nathanaël était un homme tout simple. Un homme du peuple, qui n'avait certainement pas fait les grandes écoles, mais peu importe. Il a fait une vraie rencontre avec toi. Et je te bénis pour ce témoignage. Seigneur, parce que cela doit nous encourager dans notre marche avec toi, dans nos rencontres avec toi, dans notre intimité avec toi. Seigneur, parce que tout cela nous enrichit. Seigneur, merci de bénir chacun de nous ce matin, dans notre marche avec toi. Seigneur, que ce matin, le témoignage de cet homme soit un encouragement pour chacun de nous. Seigneur, à poursuivre le chemin, même si cela n'est pas facile tous les jours. Seigneur, merci de bénir notre témoignage à chacun, là où tu nous as placés. Seigneur, sois béni et sois loué. Et lorsque nous ne saurons pas quoi dire, Seigneur, à certaines personnes, alors puissions-nous les inviter tout simplement, Seigneur, à se joindre à nous. Seigneur, et nous pourrons voir l'œuvre de ton esprit s'opérer dans les cœurs de ces hommes et de ces femmes. À ton nom, Seigneur, soit toute la gloire. Amen.